défenseur marseillais Alvaro, de racisme. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très belle matinée à tous.
Radio Plus, la radio. La radio de toutes les générations.
Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio.
Raconte-moi, ô Brésil, je ne connais de toi que ces mots-là.
Bossa nova, et tout le pompa tempo, elle est bonne va. Bossa nova,
va, tu comprends qu'elle est un trio camara.
Quand on parle de toi, on ne dit que samba, mais il n'y a pas que ça. Si que vive Rochora, a Paris c'est chega, c'est dans douche ou ma. Samba, mais il n'y a pas que ça. pochora, a Paris c'est chega, c'est un douche ou ma.
Sur Radio Plus, alors dans l'air du temps aujourd'hui, eh bien nous retrouverons et nous retrouvons Jean-Louis Wattet qui nous donnera son avis en tant que président de l'Étrême Nature, une association pour la sauvegarde de la biodiversité. Alors il nous donnera son avis sur le retour des néonicotinoïdes, une question qui divise, une question qui fait d'ailleurs réagir la Fondation Nicolas Hulot et beaucoup d'autres associations environnementales. Une autre question qui divise, l'installation de la 5G. Et oui, en mars, Pierre Rose du collectif ACAD nous avait donné ses arguments pour refuser ce réseau du futur. Et en juin, avec Jean-Louis Wattet, nous avions abordé l'impact éventuel de la 5G sur la biodiversité. Et à chaque fois, la conclusion était la même. Affaire à suivre. Alors Pierre Rose m'a demandé un nouveau temps d'antenne et nous l'entendrons donc vers 9h30. Ce qui est important, eh bien, c'est d'entendre toutes les opinions et de pouvoir faire ensuite notre synthèse. Très très bonne écoute à vous.
Clencher une guerre. Y'a ceux qui accélèrent, pieds au plancher. Ceux qui disent vendez tout, donnent des ordres sans broncher. Décident en capital, sans trembler comme un arbre. Dans leurs yeux y'a que dalle, et leur masque est de marbre. Moi je me pose des questions sur ma propre existence, plein de contradictions, je reconnais ma prudence. Moi je me pose des questions sur ma propre existence. Ah, ah, la prudence. Rien en toutes circonstances, Ariste citoyen en tour d'assurance. Moi je frémis à leur place, mon cœur se met à battre. Pour m'acheter des godasses, je dois me déchirer en quatre. Moi je me pose des questions sur ma propre existence, plein de contradictions, je reconnais ma prudence. Moi je me pose des questions sur ma propre existence. Ah. Moi je me pose des questions sur ma propre existence, plein de contradictions, je reconnais ma prudence. Moi je me pose des questions sur ma propre existence.
Ah, la prudence. Ah, la prudence.
Plein de contradictions, à chacun sa cadence. Quand on se pose trop de questions sur sa propre existence, moi je danse en secret. Je reconnais ma prudence, ma prudence, ma prudence. Moi je me pose des questions sur ma propre existence, plein de contradictions. Je reconnais ma prudence. Moi je me pose des questions sur ma propre existence. Ah, la prudence.
Jamais sur Radio Plus. Et oui, tout le monde se pose des questions sur les masques. Sujet brûlant dans l'actualité. Alors, puisqu'à présent, deux camps se font face et s'invectivent sur les réseaux sociaux autour de la question du port du masque généralisé dans les lieux publics clos, mais aussi à l'extérieur. Alors, est-ce que tout a été expliqué? La communication est-elle suffisante? Beaucoup comprennent qu'il soit nécessaire dans les espaces clos, mais beaucoup sont sceptiques quant à son utilité à l'extérieur. Le chercheur en sociologie Antoine Bristiel a mené une enquête et fait une étude afin de dessiner le portrait des récalcitrants au masque. Alors, vous pouvez bien sûr trouver les résultats de cette étude sur Internet en tapant dans un moteur de recherche « qui sont les anti-masques ». Là aussi, vous pourrez vous faire une petite idée, à savoir quand même que 95% des anti-masques pensent que le gouvernement s'immisce beaucoup trop dans notre vie quotidienne. Donc ça, c'est à méditer. Mais néanmoins, on a vu que le Covid reprenait. Et bien sûr, on reste prudent et le masque, eh bien, on le met quand on est avec d'autres personnes, cela me semble évident.
Comme à des gentils nouveau-nés. On ne peut pas encore tout comprendre. Faudrait qu'on vous laisse travailler. Faut pas manger sucré, pas trop gras, pas trop salé. Faut pas rouler trop speed, pas boire de JB et pas cloper. Mais on a beau chercher, y'a plus d'argent pour nous aider. La faute au grand méchant banquier. Vous nous dites en danger, faut tout filmer pour nous protéger. Faudrait qu'on regarde la télé et puis coucher.
Noah, sur Radio Plus, on ne joue pas avec notre santé et la préservation de notre environnement. Tout de suite avec nous, Jean-Louis Ouatté, président de l'Étrême Nature.
Sale dans sur la planète. Le drôle de temps.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Sous la pression de l'industrie sucrière affectée par le développement d'une jaunisse dans ses cultures, le gouvernement autorise le retour jusqu'en 2023 de ces pesticides nocifs pour les abeilles. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors vous nous avez dit lors d'une précédente émission que près de 40% des espèces d'abeilles sauvages sont en déclin et 24% des espèces de bourdons menacées d'extinction. Pourtant, ils sont indispensables au fonctionnement des écosystèmes et notamment de ceux qui nous garantissent une alimentation de qualité. Et sans eux, nos assiettes seraient bien mal garnies. Abeilles sauvages et abeilles mellifères, même combat pour vous et votre association L'Étrême Nature, même combat pour toutes les associations environnementales. Aussi, je suppose, Jean-Louis, que cette mesure, vous fait bondir, car c'est finalement une terrible nouvelle pour l'environnement et surtout la biodiversité.
Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir que les néonicotinoïdes, hein, sont une classe d'insecticides qui sont destinés à la protection des cultures et des élevages dans le monde entier. Ils sont sur la sellette depuis 2012, hein, et la publication de données scientifiques indique qu'ils nuiraient gravement aux abeilles, aux bourdons et puis aux autres insectes. Donc dès 2013, savoir qu'à l'initiative de la France, l'Europe avait restreint l'usage. L'interdiction totale dans notre pays, c'est un feuilleton qui paraît sans fin. Hein. Et ici, la faute à un puceron vert minuscule qui va piquer la betterave, qui va lui inoculer la jaunisse. Et résultat, bon, la photosynthèse ne se produit plus, la plante cesse sa croissance et puis les rendements sont en berne. Donc, bon, il faut compter qu'environ 35% des betteraves françaises sont malades, apparemment les opérations qui ont été menées en surface se sont révélées insuffisantes. Donc résultat, c'est qu'on est reparti sur les produits chimiques, et ça on ne peut que le regretter. Mais ce qui m'inquiète quand même un petit peu, c'est que avec ça, il y a les bons d'un côté, les bons apiculteurs d'un côté, et puis les méchants agriculteurs de l'autre. Et ça m'inquiète quand même un peu, parce que tout n'est pas blanc et noir des deux côtés. Hein. Je veux dire qu'au niveau apiculture, faut dire aussi qu'il y a aussi de la pollution au niveau des espèces, hein, notamment au niveau de la propagation d'abeilles exotiques. Hein, depuis quelques années, quelques décennies même, l'abeille noire se fait rare dans les ruchers de nos régions. Hein, les apiculteurs l'ont délaissée au profit de sous-espèces qui sont apportées d'autres régions d'Europe, et puis de leurs hybrides, dans le but de donner, bien entendu, des colonies plus productives, plus fortes en nombre d'individus. Et aussi, ça se joue sur les abeilles sauvages, hein, je le dis, je le répète. Donc oui, je regrette fortement cette autorisation des néonicotinoïdes, mais aussi au niveau des abeilles, il y a quand même des mesures à prendre aussi, et qu'on ne prend pas.
Alors, justement, François Veillerette, directeur de Génération Future, affirme que ce retour à l'emploi des néonicotinoïdes sur betteraves constitue un recul inacceptable qui démontre que ce gouvernement plie aisément sous le poids des lobbies. Mais ce qui est effarant, Jean-Louis, c'est la teneur des propos de tous ces produits phytosanitaires. Il y en a même une qui s'est écriée « Bientôt nous ne récolterons plus rien à cause de la suppression de tous ces produits phyto, d'où une crise alimentaire majeure ». Mais en fait, c'est le contraire qui va se produire.
Oui, de toute façon, chacun défend son territoire. C'est de bonne guerre, et puis avec des arguments qui n'ont malheureusement aucun sens. Hein. Parlons de la crise actuelle, hein, la crise sanitaire, elle révèle un besoin urgent de transformer les systèmes alimentaires. Hein. Savoir que la pandémie qu'on a, elle trouve son origine dans une surexploitation de la nature qui favorise la destruction des habitats, l'émergence et la propagation du virus. Donc, elle menace des centaines de millions de personnes vulnérables qui travaillent dans l'agriculture, la transformation, le commerce alimentaire. Et donc, et aussi, ces personnes sont surexploitées depuis des années pour rester compétitives et puis assurer une alimentation à bas coût. Donc, faut savoir que la pandémie tue majoritairement des personnes obèses, hein, victimes d'un marché inondé de produits qui sont sucrés, gras, salés. Donc, passer de l'agriculture industrielle à des systèmes agroécologiques diversifiés, c'est plus urgent que jamais. Hein.
Mmh. Et alors, quoi répondre à Jean-Louis, à Jean-François Proust, qui est ingénieur agronome, qui affirme que la proposition du gouvernement est plutôt bonne dans la mesure où elle est enfin guidée par le pragmatisme et non par l'idéologie. Si elle aboutit, les néonicotinoïdes ne seront utilisés qu'en enrobage des semences de betteraves pour une durée a priori limitée à 2 ans dans des conditions très strictes. Et il ajoute que ces néonicotinoïdes ne méritent pas leur mauvaise réputation quand même.
Oui, bon là faut savoir que bon on a quand même des gens qui sont liés à l'industrie de produits phytosanitaires et donc qui nous assènent un discours qui met en avant l'intérêt de ces produits, ça c'est certain. Bon, faut savoir que les conditions, c'est vrai qu'elles vont être strictement encadrées, hein, comme le font aussi d'autres pays européens qui sont confrontés aux mêmes problèmes. Donc, bon, il est uniquement autorisé de l'enrobage des semences par les néonicotinoïdes, sauf que l'enrobage des semences, ça veut dire que le produit reste dans la plante depuis le début jusqu'à la fin. Donc, bien entendu, on va pas pulvériser ces produits dans l'air. Ça aussi, c'est une technique qu'il faut connaître, hein, c'est que... On voit moins en moins de pulvérisateurs, donc le public, on donne l'impression qu'on traite de moins en moins, sauf que bah, c'est des produits qui sont systémiques et qui sont enrobés dans des semences. Donc je veux dire que là aussi, on joue sur les mots.
Hein. Mmh. Et finalement, Jean-Louis, il n'y a pas d'alternative possible ?
Si, il y a des alternatives, mais seulement, bon, le problème, c'est qu'on les met pas en avant, et puis que l'industrie, l'agriculture industrielle, et puis les industriels des produits phytosanitaires font tout pour le cacher. Bon, il y a certains agriculteurs qui préparent l'avenir, hein, qui développent des alternatives, ils forment un réseau d'agriculteurs qui expérimentent une vie sans pesticides sur leur exploitation et développent des solutions alternatives. Il y en a qui ont des volontaires qui vont chercher à s'appuyer sur ces processus pour influer sur le développement justement du puceron vert. Mais il faut savoir que la gestion des ravageurs, ça nécessite de l'observation, de la connaissance du milieu et des interactions qui s'y développent, des auxiliaires et puis de réaliser des tests. Hein. Donc
ça devient complexe.
Ben voilà. Et donc, faut savoir que l'utilisation des produits phytosanitaires, ben, c'est la solution qui est quand même une solution de facilité, une solution de confort. Hein.
Mmh.
Hein, l'utilisation des semences de betteraves qui sont traitées aux néonicotinoïdes, ça permet aux agriculteurs de ne pas vérifier les attaques d'insectes pendant plusieurs mois. Donc,
ouais.
Ils sont tranquilles. Mmh. Donc... la mise en œuvre de quelques recommandations simples permet pourtant de ne pas utiliser de néonicotinoïdes tout en contrôlant les attaques des ravageurs. Bon, bien entendu, comme toujours hein, en agriculture, la réalité est à nuancer. Hein. C'est bien entendu en fonction du terroir, de la pression des ravageurs, etc. Mais bon, en gros, ce que j'ai pu lire, c'est que... faudrait ne pas semer trop tôt, ne pas semer dans une terre froide, favoriser une croissance rapide des betteraves. Et du fait du développement au foyer, les dégâts des pucerons sur les rendements des betteraves sont localisés et souvent limités. Ah, il faut observer la culture, utiliser si nécessaire des produits qui sont autorisés par exemple en agriculture bio. Et puis la régulation des pucerons, elle se fait généralement naturellement s'il y a un minimum de biodiversité. Le problème c'est qu'on n'en a plus cette biodiversité. Les terres agricoles malheureusement sont de plus en plus mortes. Hein. On voit de moins en moins de cirfes, de coccinelles, de chrysopes. Et ça c'est une condition qui est incompatible avec l'usage des néonicotinoïdes. Donc voilà. Donc toutes les solutions, ça existe, mais ça demande vraiment de s'y attaquer de façon solide. Mmh. Et bien entendu, on préfère les solutions de confort.
Bien sûr. Mais en fait, Jean-Louis, quand on regarde les chiffres de près, et vous les avez cités en début, il pourrait y avoir une baisse donc dans la production de betteraves, mais cette baisse serait-elle aussi dramatique que certains veulent bien le prétendre? Et les bonnes études et les bons comparatifs ont-ils été faits? D'autre part, n'eût-il pas mieux valu apporter de l'aide aux producteurs, comme souvent c'est le cas, même quelquefois tout va d'ailleurs, plutôt ce retour en arrière déplorable pour l'environnement et la biodiversité, ou tout simplement pour notre terre nourricière?
Bah oui, bien entendu, l'aide technique, comme je viens de dire, là, dans les solutions qui sont possibles, ça nécessite une aide technique. Malheureusement, cette aide technique, elle est souvent aux mains des grands groupes semenciers et phytosanitaires, et qui va dans l'intérêt de ces grands groupes et pas dans celui des agriculteurs, qui sont de plus en plus, malheureusement, faut le reconnaître, hein, quand on travaille avec eux, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus dépendants. Et il est difficile pour ces agriculteurs de sortir de la spirale. Il y en a qui le font, hein. Il y en a qui se convertissent au bio, mais bon, faut savoir que c'est loin d'être un parcours facile, donc c'est certain que c'est une aide technique qui est nécessaire.
Mais justement, Jean-Louis, il n'y a que 30% des betteraves qui sont atteintes.
Oui, il y a 30%, c'est pas la production complète n'est pas atteinte, hein. Mmh. Et donc, mais il faut savoir qu'on essaye de maintenir la place de premier producteur sucrier en France, hein.
Oui. Et encore une fois, Jean-Louis, donc nous sommes face à un problème très complexe avec moult facteurs, on l'a compris, à prendre en considération. Alors si je voulais faire de l'humour, je dirais comme Aristote qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre. Moins d'abeilles, c'est grave pour la pollinisation et donc pour les cultures et donc pour ce que nous mettons dans notre assiette. Par contre, moins de sucre, finalement, ça ne serait pas plus mal, car lorsqu'on sait qu'il est partout avec tous les méfaits sur notre santé, on ne pourrait finalement que se féliciter de sa disparition, n'est-ce pas?
Ah, oui,
surtout le sucre raffiné.
Peut-être pas, mais de la diminution, c'est vrai que la production de sucre pourrait diminuer de quelques dizaines de pourcents.
Tout à fait.
Et on n'en mourrait pas. Hein.
Non.
Donc je veux dire que là aussi, derrière tout ça, il y a une industrie, il y a des enjeux financiers qui sont énormes, il y a des places à défendre, enfin, etc. On connaît un petit peu toujours le même refrain. Hein,
bien
et donc,
sûr.
Et on en est là pour justement essayer de sauvegarder des marchés financiers.
Tout à fait. En tout cas, c'est encore une affaire à suivre, affaire dont on va entendre parler avec véhémence de chaque côté. Jean-Louis, merci à vous pour cet avis donné, cet avis éclairé, je dirais. À lundi, Jean-Louis.
À lundi, bonne semaine.
Très très bonne semaine à vous.
Au revoir.
C'était avant qu'il ne contrôle plus rien, la terre, les océans, les robots et la faune. La faune vivait en souffrance, côtoyant l'humain. A bien coupé la branche de son destin. Plus d'eau, plus de forêt, d'arc-en-ciel, un soleil sans fin. Oh. Mais comment c'était avant qu'une à une les saisons meurent, que disparaissent les abeilles, les oiseaux, les couleurs, avant du sol pousser des plantes, des millions de fruits et de fleurs, des gens
Seule personne sur Radio Plus, avant, c'était le titre. Eh bien oui, avant, on ne parlait pas d'Internet ni de débit et on vivait quand même. À présent, il faut aller vite, il faut communiquer vite et s'installe ainsi là-dedans. Donc la 5G, c'est-à-dire la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile. Et croyez-moi, cela ne fait pas que des adeptes. Bonjour Pierre.
Bonjour Martine.
Pierre Rose, bonjour. Alors, lors de votre dernière intervention, vous nous avez énuméré avec beaucoup de véhémence les inconvénients, voire les conséquences très fâcheuses provoquées par le déploiement de la 5G, ce réseau de cinquième génération pour la téléphonie mobile installé depuis peu, enfin installé peu à peu dans l'Hexagone. Alors Pierre, vous me demandez l'antenne à nouveau aujourd'hui parce que les nombreux collectifs et associations relevant du combat écologique et de la protection contre les ondes électromagnétiques se mobilisent un peu partout en France puisque le gouvernement français veut accélérer cette installation de ce réseau 5G.
Alors je résume ce qui a été dit le 2 mars, donc avant le sinistre confinement. La 5G c'est 10 fois plus vite que la 4G. On n'arrête pas le progrès. Mais le progrès pour la 5G, c'est quoi? Implantation de beaucoup d'antennes, des grandes et des petites tous les 100 mètres. Un réseau de satellites encore plus dense, au moins 20 000. Un tsunami pour les rayonnements, donc une augmentation du brouillard électromagnétique, électrosmog, auquel on ne pourra échapper. Une surveillance des citoyens encore plus importante. Une consommation au moins 3 fois plus importante qu'avec la 4G, puisqu'on est dans la société de consommation ou de surconsommation. Changement de portable. Bonjour les dépenses, vive les bénéfices chez les opérateurs.
Alors, Pierre, vous posez la question justement de savoir dans quel monde nous voulons vivre.
Nous voulons vivre dans un monde qui ne soit pas tout numérique. Ce choix de la 5G signifie la destruction du vivant, animal, humain, et du végétal. Ça signifie des problèmes de santé à cause de l'électrosmog, entre autres l'électro-hypersensibilité, le cancer, la dépression, autres troubles. L'usage de la 5G intensifiera la surveillance de masse et le contrôle des individus. Nos faits et gestes seront tracés, dans nos domiciles, dans l'espace public, à travers nos déplacements. C'est bien la mise en circulation exponentielle d'objets connectés, de voitures autonomes, le tout s'articulant dans nos quartiers et communes selon le concept de ce qu'on appelle la ville intelligente et sûre. Alors la 5G permettra l'Internet des objets, au moins 200 millions en fin d'année, hein. Mais aussi l'Internet des corps, c'est-à-dire la connexion par l'intermédiaire des puces RFID, ou d'autres dispositifs intégrés dans le corps. Associés au maillage de tout le territoire et à la suppression de toutes ces zones blanches qui sont indispensables pour les électro-hypersensibles, il ne faut pas l'oublier, ceci permettra de tracer, de contrôler partout et à chaque instant. Si on raisonne en termes de technologie pour la téléphonie mobile, il faut savoir que la 3G est la moins pire et bien suffisante pour un usage correct et raisonnable de l'Internet mobile. C'est l'association Robin des Toits qui le dit. Alors le but final de cette opération, c'est de formater l'être humain, de robotiser la Terre. Nous ne voulons pas de cette société déshumanisante qui nous amène lentement mais sûrement au transhumanisme. Pour nous, le progrès, c'est le progrès humain, en lien avec les animaux et la nature. On veut moins de bien, plus de liens. On est loin avec la 5G.
Oui, bien sûr. Et justement, vous dites, Pierre, qu'il faut s'informer et entrer en résistance, et puis interroger les élus. Mais les interroger pour leur demander quoi?
Alors, en fait, beaucoup d'élus n'ont pas encore pris conscience des dangers dus à cette nouvelle technologie. Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire. Car on leur a effectivement enlevé un certain nombre de compétences. Il ne faut pas oublier que la Convention citoyenne pour le climat, demandée par Macron d'ailleurs, a notamment demandé à 98% un moratoire sur l'implantation des antennes. Malheureusement, Macron a écarté d'emblée cette proposition, qui est pourtant reliée par de nombreux collectifs et maires. En ce moment, des élus écologistes et de gauche s'expriment sur le sujet. Ils disent ceci. La décision du gouvernement d'attribuer des fréquences dès septembre intervient sans étude d'impact climatique et environnemental, ni aucune consultation publique préalable. Ils proposent donc dans l'immédiat un moratoire sur le déploiement de la 5G, au moins jusqu'à l'été 2021, et la tenue d'un débat démocratique décentralisé sur la 5G et sur les usages numériques. Ça bouge, mais il faut amplifier le mouvement. Un exemple à Grenoble, qui fait partie des villes où la 5G doit se déployer en avant-première. La municipalité a décidé de bloquer l'avancée des travaux. Les sociétés intermédiaires des opérateurs attaquent en justice. C'est dire que l'enjeu est très important. Il faut savoir que le gouvernement a tout fait durant le confinement pour déposséder les maires et les élus de leur capacité d'intervention. La loi d'urgence, en date du 23 mars, c'est-à-dire durant le sinistre confinement, a permis au gouvernement de faire passer le 25 mars une sixième ordonnance qui a libéré les opérateurs de téléphonie de toute formalité avec les maires et a supprimé les demandes d'autorisation préalable d'implantation d'antenne. Cela-ci s'apparente à une violation des droits des communes, des citoyens, et retire l'autorité aux maires. Évidemment, les opérateurs en ont bien profité.
Mais alors, de notre côté, à quel élu pouvons-nous nous adresser et quoi leur dire?
Qu'ils doivent utiliser les moyens, les quelques moyens, pour empêcher cette implantation. En tout cas, les élus ont déjà les moyens d'informer les citoyens. Ils ne le font pas encore assez. Il faut aussi se servir de l'intervention en date du 12 mai de Michel Combeau, directeur général de la Fédération française des télécoms, qui a été interrogé sur les problèmes de santé causés par la pollution électromagnétique. Il a dit à la télévision que les maires avaient le droit de refuser la pose d'antenne. Donc les maires sont en première ligne pour intervenir, et ceci avant que les dégâts sanitaires et environnementaux ne s'abattent sur les communes.
Mais bon, sérieusement, Pierre-Rose, quand même, si le gouvernement passe au-dessus, si le gouvernement prend une décision, un élu peut vraiment aller contre?
Un élu ne peut rien s'il est seul, évidemment.
Bien sûr.
Il le peut, d'autant moins que les opérateurs peuvent s'adresser directement à des particuliers pour l'implantation des antennes. Mais il est évident que les habitants d'un territoire ont toute possibilité de se réunir, de se rencontrer, d'agir. Cette lutte n'est pas facile à mener car les ondes polluantes ne se voient pas. C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl qui se sera arrêté à la frontière française, comme chacun sait. C'est aussi comme l'amiante. Au début du siècle dernier, on n'a pas vu tout de suite les conséquences de ce nouveau produit soi-disant miraculeux. Il a fallu presque 40 ans pour que ce matériau soit interdit aux États-Unis. Il en a fallu pratiquement le double en France. C'est grâce à des associations que le combat a été mené. Et bien, nous sommes dans la même situation. On demande au moins, en ce moment, un moratoire pour étudier objectivement les études, pour mettre en avant les nuisances occasionnées sur le vivant. On est dans un monde qui s'occupe trop du rapport financier et ne met pas assez en avant la cause humaine et animale. Ouais. Il y a urgence à se battre.
Alors justement, à ce propos, les collectifs ont rédigé une lettre à adresser au maire en demandant de multiplier ce courrier. Alors, c'est quoi ce courrier?
Alors, cette lettre est à l'initiative des collectifs anti-compteurs communicants et anti-5G. Il a été envoyé à un certain nombre de personnes de la région. Il peut être lisible sur le site du collectif ACAD dans l'article en date du 11 août. Il détaille tous les arguments repris dans notre intervention du 2 mars et dans cette intervention de ce jour.
Alors, justement, Pierre, les collectifs peuvent-ils s'appuyer sur des preuves tangibles pour tenter de persuader les responsables politiques?
Il y en a plein. C'est très détaillé dans l'article en date du 11 août. Et notamment des études sur les conséquences épidémiologiques sur la neurologie, des effets hormonaux, génétiques, cancérigènes, et sur les effets sur la nature et la biodiversité. Donc surtout pas croire qu'il n'y a pas d'études. Le problème, c'est qu'elles sont surtout faites en dehors de la France. Alors en France, sous Bachelot, déjà en 2009, 24 centres de recherche ont été mis en place, mais sous la responsabilité d'un membre du conseil scientifique de Bouygues, évidemment. Donc on attend toujours les résultats.
Oui, bien sûr. depuis 2009. Mais y a-t-il aussi des quand je parle de preuves tangibles, souvent on parle de scientifiques. Les gens veulent du scientifique, c'est nouveau, c'est...
Alors, les preuves tangibles, il y en a au niveau de ce qui existe déjà, même avec la 4G, avec tout ce qui existe au niveau de la santé déjà. Et puis après, quand on voit l'évolution de la société informatisée, il y a de quoi s'inquiéter parce que c'est grave de la part de notre façon de voir l'humain, la place de l'humain, plus
Et alors, Pierre, y a-t-il beaucoup d'antennes installées dans notre région ?
De ce que l'on sait, de ce que l'on a vu. Hein. Il y en a à Ménil-les-Ruites, donc près de Brué,
ouais.
Grenay, Angres, Liévin, Givenchy, Hénin, Rouvroy, Coincy, Louvain-Planque, Monchaux, Austricourt, Rimbaucourt. C'est pas fini. Hein. Mm. C'est toujours possibilité, en tout cas, pour de nombreuses antennes 4G de passer à la mode 5G. Donc, il y a aussi pas mal d'implantations qui n'ont pas à être faites. Et ces nouvelles antennes se cachent bien dans le paysage, d'ailleurs. Ce sont comme des cheminées. Vu de loin, on a l'impression que ce sont des arbres. Tout le mécanisme ne se voit pas. Il est à l'intérieur. Alors, il faut savoir aussi que Enedis va récupérer totalement sous peu la compétence des colonnes montantes dans les immeubles. Ça va lui permettre de mettre des antennes en haut des immeubles. C'est déjà fait en certains endroits. C'est grave.
Alors, vous dites qu'il faut manifester. Alors, des manifestations sont-elles prévues toujours dans notre région ?
Alors, dans notre région, ça ne bouge pas encore assez, à mon point de vue. Mais on ne désespère pas, car on fait de l'information sur le site du collectif et dans de nombreux sites et endroits. Il ne faut pas croire qu'on est les seuls, évidemment. Il faut amplifier le combat dans notre région. Elle n'est pas assez visible. Alors, les 4 prochaines réunions importantes sur le sujet auront lieu à Amiens, le 8 octobre, à Avion, le 9, à Lille, le 10, et à Condé, dans la région de Valenciennes, le 11. Elles seront animées par Nicolas Bérard, auteur d'un livre important sur le sujet qui s'appelle 5G, mon amour. Je vous conseille de l'acheter et évidemment de le lire. Sinon, il y a des rassemblements importants au Canada. Il y en a eu le 12 septembre, c'est-à-dire il y a 2 jours. Il y aura un grand rassemblement pour le sud-est de la France à Lyon le 19, samedi prochain. Et vous avez des détails sur l'article qui paraît aujourd'hui sur le site. Et il faut évidemment pas oublier la journée mondiale sur la 5G le 26 septembre avec des activités pour nos amis belges à Bruxelles.
D'accord.
On ira.
Donc, ce qui veut dire que quand même dans le monde, ça bouge.
Ça bouge, et il faut que ça bouge vite et rapidement parce que là, pour l'instant, la stratégie du gouvernement est assez simple, c'est qu'il veut aller très vite avant même les conclusions de l'ANSES. Bon, on n'est pas obligatoirement assuré que l'ANSES va être très objectif, mais enfin, le problème, c'est que si on ne va pas assez vite, les antennes vont être montées et les antennes vont être opérationnelles et on verra les conséquences très rapidement à tous les niveaux.
Mais encore une fois, Pierre, on met la charrue avant les bœufs. On n'attend pas les conclusions des enquêtes faites pour installer, quoi.
Comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on dit, soi-disant, l'ANSES dit qu'il n'y a pas assez, il y a des enquêtes, mais les enquêtes, on va essayer de faire un récapitulatif et puis on donnera notre réponse pour mi-2021. Donc ça sera trop tard.
Ça sera trop tard.
Ah oui, comme d'habitude, c'est-à-dire que ces organismes dits indépendants ne font pas leur boulot sérieusement. Il n'y a pas que cet organisme-là, il y en a d'autres. Qui mettent en doute à chaque fois les études qui sont faites à l'étranger et même en France. Mais en France, en plus, les recherches ne sont pas faites sérieusement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de moyens financiers, parce que ceux qui donnent l'argent, ce sont les opérateurs.
Oui, forcément. Donc, c'est la spirale, là, on tourne en rond, quoi. On se mord la queue, finalement.
Exactement, et malheureusement, on va en voir les conséquences. Et puis, actuellement, dans ce contexte très très craintif, très peureux de la période, évidemment, les gens vont avoir peur de se défendre, et au contraire, il faut essayer de se battre, parce que sinon, Sinon, bah, ça va être la pire des catastrophes.
Et d'accord.
Voilà. Et puis, un dernier exemple, les implantations de 5G. Bah, à Miami, où habitent Trump et puis Bill Gates, les fameux amis ennemis, là, eh bien, il n'y a pas d'antenne 5G. Bizarre.
En tout cas, on répète que les manifestations doivent rester non violentes et non destructrices. On insiste bien là-dessus et pour cause. Et pour cause, n'est-ce pas Pierre ? Et il y a de nombreuses façons de faire part de sa désapprobation et vous nous en avez donné quelques-unes, mais en aucun cas cela ne saurait être une contestation violente comme cela a déjà été le cas.
En tout cas, agir, hein, mais il faut agir.
Pierre-Rose, merci. Je rappelle que vous êtes président du collectif ACAD, contre les compteurs communicants collectifs, qui s'oppose à tout ce que vous considérez dangereux pour l'homme et pour la planète. Et justement, puisque vous avez beaucoup parlé de votre site, on peut taper dans Google ACAD, contre les compteurs communicants, et on a toutes les pages du site sur pages sur lesquelles vous expliquez ces inconvénients à la 5G, n'est-ce pas ?
Merci de m'avoir accueilli, en tout cas.
En tout cas, merci à vous, Pierre-Rose.
Au revoir, au plaisir.
Au plaisir.
Si tu n'étais pas près de moi, j'en serais où, je ferais quoi ? Entre dérives et décadences, à me saouler de ton absence.
Si je n'étais pas près de toi, en vérité je ne crois pas que j'aurais su donner un sens au chaos de mon existence.
Nous sommes-nous dans ce monde étrange, que deux moitiés d'une même orange, qui se cherchent inlassablement, sans se retrouver forcément. D'ouest en est, du nord au sud, condamnés à l'incomplétude, nous sommes-nous dans ce monde étrange, que deux moitiés d'une même orange. Deux moitiés d'une même orange.
C'est drôle, pour moi il n'était pas pensable qu'un jour au détour de ma vie, quelqu'un simplement me sourit et me devienne indispensable.
Mystère attirant, c'est osmose. La raison de tout ça, en tout cas tu m'accorderas que la vie a bien fait les choses.
Nous sommes-nous dans ce monde étrange, que deux moitiés d'une même orange, qui se cherchent inlassablement, souvent depuis la nuit des temps. Tu as bien fait venir au monde, il est plus beau quand tu es là. Et quand ta voix me donne de l'art, il fait bon sur ta longueur d'onde. Tu as bien fait venir au monde, il est plus beau quand tu es là. À croire qu'on est bien toi et moi, les deux moitiés d'une même orange. Deux moitiés d'une même orange.
Si je n'étais pas près de toi,
sur Radio Plus et sur la même longueur d'onde. Et oui, on reste ensemble, si vous le voulez bien, sur cette même longueur d'onde, c'est-à-dire le 104.3, pour passer cette future heure ensemble. Eh bien oui, l'air du temps se termine, mais pour laisser place à Kaléidoscope, sa musique et ses chansons. Allez, très très bonne matinée à chacun d'entre vous.